filmer à tout prix.
Bonjour Sana Sazari.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Très très bien.
Alors vous êtes dans le festival Filmer à tout prix pour nous présenter votre deuxième film qui s'appelle I comme Iran.
Tout à fait.
Voilà. Alors, ce qui fait la force de votre film, c'est que vous proposez en fait un dispositif cinématographique très simple, mais en même temps assez compliqué à expliquer. Je vais tenter de le faire et comme ça, après, on va pouvoir mener une entrevue. En fait, dans votre film, dans I comme Iran, on suit une jeune femme qui apprend à lire et écrire le persan. Elle sait le parler, mais elle ne sait pas le lire ni l'écrire.
Le fari.
Le fari.
Le farci.
Le farci.
Mais
le
c'est
farci.
Pas grave, c'était bien c'était, tenté.
Voilà. On essaye. Et donc, nous allons suivre cette jeune femme, mais nous n'allons pas la voir. Par contre, nous allons avoir son point de vue, puisque nous sommes face à un tableau noir et un professeur. Et ce professeur va donc lui enseigner le persan en utilisant un cahier qui date de la révolution islamique de 1979, donc en Iran. Et alors, petit à petit, vous installez dans votre film un jeu entre l'histoire que ce professeur, on devine, on comprend petit à petit que c'est un intellectuel exilé, qui a été torturé, et petit à petit, lorsqu'il apprend à cette jeune femme le persan, il utilise le cahier, les calligraphies, les dessins, les mots, les sons, il y a un jeu qui se fait, et chaque mot va commencer à évoquer un aspect de l'Iran, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le pain qui est dessiné dans le cahier évoque la misère économique de l'Iran, de même que l'arbre, ça c'est très très fort, l'arbre qui évoque la potence avec laquelle on exécute des gens. Donc voilà, c'est le jeu que vous installez dans votre film. Est-ce que je résume bien ?
Oui, c'est franchement très bien expliqué.
Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment vous avez décidé de mettre ce dispositif en place ? Est-ce que le dispositif et l'envie de faire un film sur cette histoire de l'Iran est venu ensemble ? Ou vous vous êtes dit, je veux faire un film sur l'histoire de mon pays d'origine et puis je cherche un dispositif et puis celui-là m'apparaît parce que je rencontre ce professeur. Comment c'est venu cette idée ?
En fait, j'ai d'abord tout simplement commencé à suivre des cours de persan il y a des années. Et donc pas du tout dans cet endroit-là, puisque c'est un endroit fictif en fait. J'ai commencé dans le centre culturel Omar Khayyam et avec une professeure, une femme. Et en fait, après 2-3 leçons, mais bon, les leçons duraient longtemps, ça durait au moins 3 heures. Donc on va dire qu'après, peut-être 5 fois 3 heures, je me suis dit, mais en fait c'est super ce qui se passe comme dialogue entre elle et moi, parce qu'en apprenant les premières lettres de l'alphabet persan, à chaque fois, on tombe sur des mots et puis en fait, on parle de l'Iran. Et donc, je me suis dit, bah alors, ça serait super de faire un film sur l'Iran à partir de cet apprentissage. Mais je voulais que mon apprentissage reste dans le film un peu comme une performance. Du coup, j'ai arrêté mes cours. Donc, j'ai arrêté le cours de ma vie pour en fait...
De manière à apprendre vraiment pendant la réalisation
du film.
Voilà,
exactement. Okay. Comme un peu comme une performance. Et donc, et puis j'ai commencé à écrire un dossier avec le film que je rêvais. Parce qu'évidemment, ça m'est venu du réel. Mais c'est pas pour ça qu'après, j'aurais pas du tout eu envie de prendre une caméra et de filmer ce qui se passait à ce moment-là. En fait, j'aurais pu faire ça. Mais c'est pas du tout c'était pas ce film-là que j'avais envie de faire, au fond. Et donc, j'ai mis en scène un réel que j'ai imaginé. Enfin, je sais que c'est un peu tordu, mais c'est un peu ça, en fait.
et votre rencontre avec ce professeur, Behrouz Majidi, comment vous l'avez fait, cette rencontre ? Parce que vous dites que ce n'est pas votre professeur à la base.
À la base, ce n'était pas le professeur. En fait, il y a plein de professeurs de persan à Bruxelles, et c'est tout simplement des Iraniens qui donnent des cours de persan. Et voilà, c'est pas spécialement... Alors, j'ai rencontré beaucoup de professeurs. J'ai même rencontré des vrais professeurs. Donc, c'est les métiers des linguistes et tout ça. Et en fait, au final, ce qu'il me fallait, c'était pas un bon professeur. C'était une belle personne et quelqu'un qui était capable, avec la moindre lettre et le moindre mot, de nous emmener très loin. Et en fait, Behrouz, c'est un peu un conteur. Mmh. Et... par exemple, lui, on lui donne la lettre N, et puis on lui dit N comme, et alors il peut tout à coup dire N comme Nowruz, par exemple, le printemps. Le nouvel an, le nouveau jour, et puis tout à coup il improvise autour de ça. C'était un peu son talent. C'est pour ça que je l'ai choisi, lui.
Et est-ce que vous avez dû refaire des prises ? Parce que vous avez l'air de dire que c'est quelqu'un qui improvise bien, mais est-ce que...
Oui. En fait, pendant toute la durée du tournage, l'idée, c'était tu m'apprends le persan, vraiment. Hein, donc, il y a vraiment c'est cette chose qui se fait. Et alors, on parcourt tout le manuel. Et puis, j'avais quelques idées de thématiques en tête. Et puis, il y avait parfois, on reprenait des scènes où parfois la caméra ne tournait pas. Puis, il me faisait une dictée. Et puis tout à coup, dans cette dictée, je remarquais que bah, y avait quelque chose d'intéressant qui se passait parce que je bloquais sur un mot. Alors je disais, ah ben on va la tourner celle-là. Donc voilà, c'était tout le temps. On ne tournait pas tout le temps de la leçon. Par contre, il y a plein de moments où il m'apprenait le persan, on ne tournait pas. Et puis d'autres moments où on tournait. Et bah, voilà, je continue à apprendre.
Et il y a un moment qui me plaît beaucoup dans le film qui me fait penser à des sortes de mises en abîme qu'il y a dans les films d'Avi Moghrabi, parce qu'il y a un moment où il y a une discussion avec votre professeur sur ce qu'il va falloir mettre dans le film, comment utiliser le manuel,
les photos.
Dans le manuel, vu que c'est un manuel post-révolution islamique, il y a l'ayatollah Khomeini
En
première page.
Voilà.
Et là, c'est marrant, il parle. Et donc ça, est-ce que ça arrivait spontanément, ce moment?
Oui, en fait, ça, c'est le premier jour de tournage. Donc, ça faisait un an que je préparais tout, la classe. Enfin, on avait même parlé de comment il va s'habiller et tout ça. Et puis, c'est le premier jour. On commence, ça y est, je peux enfin tourner mon film. Et je me rappelle, il me dit, non, on commence pas maintenant. Cette page... Et moi, évidemment, Vincent Pincars, donc le chef opérateur avec qui je travaille, on sait tous les deux et il sait que ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est ce qui se passe avant le moment où on dit action et après le moment où on dit couper au cinéma. Et donc, évidemment, on était déjà en train de le filmer. Donc, et heureusement, parce que c'est dans ces moments-là, évidemment, que... Parce que c'est pas au moment où on dit action et que tout est bien que le cinéma se passe, quoi.
C'est la spontanéité, c'est le moment que vous arrivez à capter.
Et là, il place tous les enjeux et il dit des choses incroyables. Il dit, ça va te poursuivre, ce choix. Est-ce que tu veux mettre ces images dans ton film ou pas? Lui, il propose de coller les pages. Il dit, non, on va commencer à la page 4.
Oui, c'est ça.
Et... Au début, ça paraît à la fois mignon et précautionneux envers toi. Et en même temps, c'est totalement politique. C'est vraiment comme s'il y avait, il pourrait avoir de la naïveté. Il dit attention, est-ce que cette image va être dedans ou pas?
Oui, c'est ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ce manuel scolaire, c'est un manuel pour les enfants de première primaire. Donc, on est dans quelque chose de totalement naïf, dans les images, dans les premiers mots qu'on apprend, l'eau, le pain, papa, maman, papa donne de l'eau. Et en fait, dès le départ, on pourrait rester dans cette naïveté et puis que ça s'aggrave, mais non. En fait, dès la première page, il y a le portrait de Khomeini. Et donc, du coup, parce qu'il y a le portrait et parce que c'est la première page et parce que c'est cet homme-là qui m'enseigne, eh bien, le film, dès le départ, prend une connotation politique. Mm-hmm. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça vient... c'est venu, en fait, naturellement, quoi.
Et l'objet, bon, ça tombe bien, puisqu'il y a une partie de la programmation du Festival Filmé à tout prix qui parle des objets dans le cinéma. Mais là, il y a cet objet qui est très fort, puisqu'il en parle, lui, à... Les images sont des représentations de femmes voilées, d'hommes qui vont faire la prière, ce qui n'existait pas, bien entendu, avant
1979. Ouais.
Il parle de ses propres manuels qui lui ont permis d'apprendre la langue, avec une vision différente pour lui, voilà, avec des hommes habillés avec des cravates, etc. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas un risque à un moment donné de présenter la période du chat comme une période avec nostalgie, comme une période comme un âge d'or.
Oui, tout à fait. En fait, c'est toujours le risque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Iraniens, ils sont presque obligés, en disant qu'avant c'était mieux, de dire qu'avant c'était bien, alors qu'en fait on sait que non. Mais en fait, aujourd'hui, c'est tellement pire que forcément, il y a beaucoup de nostalgie chez les Iraniens, comment ça se fait qu'on... En fait, c'est surtout ça, c'est comment ça se fait qu'on en est arrivé là, alors qu'il y a une telle civilisation derrière, qu'on était les rois de la démocratie, et puis la poésie, la liberté de penser. Comment ça se fait qu'avec toute notre culture, notre civilisation, on en arrive là? Donc c'est ça qui est... Mais moi-même, encore maintenant, je trouve ça dingue, en fait.
Il y a une grande résonance, je trouve, de ce film avec, en plus, disons, les dernières années qu'on a pu vivre avec les printemps arabes. Il parle de ça à un moment donné. Voilà, on était contents de faire tomber. Et c'est le seul moment où il explique quand même que c'était un moment difficile avant, où il dit on fait tomber un dictateur, mais on est comme des enfants. C'est une difficulté. On ne connaît pas l'histoire. Enfin, on ne connaît pas l'histoire. Il ne savait pas
ce
qu'allait se passer.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé, comment ces intellectuels se sont rebellés pour finalement se retrouver exilés?
Comment ces intellectuels se sont rebellés pour se retrouver exilés?
De ce qu'on connaît, c'est qu'il y avait à la période du Shah, c'était un moment où l'Iran était sous la tutelle quasiment des Britanniques, des Américains, achetait des armes, dépensait de l'argent, était vraiment un moyen de s'enrichir pour ces puissances coloniales. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a des étudiants, des intellectuels, mais aussi des religieux qui vont faire tomber le Shah ensemble.
C'est ça.
Mais qu'est-ce qui se passe après, alors? Pourquoi ça bascule?
C'est que c'est les religieux qui l'emportent après. En fait, le truc, c'est que les gens se retrouvent à manifester, mais n'ont pas spécialement de programme. Comme beaucoup de révolutions, en fait. On sort dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on veut tout casser. Mais en fait, on n'a pas spécialement prévu comment mettre en place les choses pour l'avenir. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde une révolution d'il y a 30 ans, on peut voir, en fait, on a un peu de recul pour voir, c'est un peu ça aussi, mon film, quoi. C'est la révolution islamique, 30 ans plus tard, par un exilé. Et donc, moi, une de mes questions pendant le film, et qui me travaille encore aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait une révolution? Par exemple, la prochaine révolution iranienne ou autre, comment est-ce qu'on fait ça? Ça peut pas... ça se fait dans autre chose. Enfin, voilà, c'est des révolutions aussi invisibles. Il y a plein de choses qui bougent petit à petit. Et que c'est pas spécialement en sortant dans la rue et en faisant tout péter qu'on arrive à un changement meilleur, en fait. Enfin, c'est une question, j'ai pas la réponse, vraiment.
Et lui le dit, en plus, il y a une scène où il explique qu'il est fatigué, que son ami avec qui il a fait la révolution est fatigué de faire la révolution, que l'ami de l'ami... Donc il dit que ça se fera sans... En tout cas, s'il y en a une prochaine, ce sera sans lui, vraisemblablement. Mais c'est marrant parce que vous avez, dans votre premier film, vous avez filmé l'Iran actuel, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça.
Même si en filmant votre professeur, vous filmez un Iran actuel, hein, c'est pas ça. Mais là, vous étiez en Iran, vous filmez l'actualité.
Ouais.
Et là aussi, vous croisez des personnages qui vous disent on est parti, on va se faire tabasser.
Oui, c'est ça.
Donc vous avez eu cette capacité dans votre premier film de filmer cet Iran là actuel et du coup est-ce que la révolution de 1979 elle fait écho à ceux qui se battent aujourd'hui pour changer l'Iran?
Mais oui, en fait c'est les enfants de ceux qui ont fait la révolution. Ce sont leurs enfants qui aujourd'hui 30 ans plus tard se retrouvent là en Iran et n'ont connu que le régime islamique.
Ouais.
Et donc comment est-ce qu'ils vont faire eux? Et je crois qu'ils n'ont pas envie de sang, de bain de sang, ils n'ont pas envie d'arrêter leurs études. Soit ils partent vivre dans un autre pays, soit ils font avec ce qu'ils ont. Et je crois qu'il y a vraiment moyen de construire plein de belles choses dans son pays, en Iran, de faire du cinéma, de faire des concerts, même si ce n'est pas avec la liberté que nous, on suppose ici. Mais je pense qu'il y a moyen de faire une... Enfin, c'est presque une apologie à la non-révolution pour continuer de vivre en étant vivant. C'est plus cette question-là que se pose le film, en fait.
On sent dans vos films que vous portez un certain amour pour la nature, les paysages d'Iran. Vous aimez la montagne. À quoi c'est dû?
En fait, c'est dû au fait que j'ai l'impression que c'est la seule chose qui reste intacte par rapport au régime et à la politique. Et c'est un peu la grotte ou la montagne. On voit déjà ça dans les miniatures persanes, par exemple, ou dans certains films. En fait, j'ai l'impression que ce décor, pour moi, c'est un décor rassurant qui sera toujours là. Et on peut toujours trouver un espace de liberté dans la nature et dans les montagnes, par exemple, en Iran, ce sont des endroits où les amoureux vont se promener.
On parle d'amour, de cinéma. La révolution fait de l'amour. Et peut-être une dernière question, Thibaut, justement sur le cinéma en Iran.
Le cinéma en Iran. Mais oui, parce qu'en fait, le 21 novembre, l'aventure proposera un focus sur les réalisatrices d'Iran.
Oui.
Quel regard? On a l'impression que il y a un regain, ou en tout cas il y a un gain d'intérêt sur les réalisatrices iraniennes. Quand on parle de cinéma iranien, c'est souvent des réalisatrices qu'on met en avant.
Oui.
Comment vous expliquez ça? Et encore à Cannes, je disais que Ida, alors je dis mal son nom, Panhandeh, qui a réalisé Naïd, disait, a même dit que c'était peut-être même un avantage pour faire du cinéma en Iran d'être une femme. Comment vous expliquez cette émergence du cinéma féminin en Iran?
Ouais, moi c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu parce que je pense qu'il y a des hommes en Iran qui sont sous le régime iranien et qui ont autant de difficultés à faire des films qu'ils ont envie de faire.
Tout à fait.
Et donc du coup, je vois pas pourquoi il y aurait plus un cinéma de femmes qu'un cinéma d'hommes qui serait revendiqué. Je crois que voilà, la liberté de parole, elle est pour les deux sexes, elle doit être la même. Mais
d'où c'est né? Est-ce que c'est par exemple, je sais pas, Marjane Satrapi avec Persepolis qui a lancé un mouvement?
Mais parce que je crois que les femmes iraniennes sont très volontaristes. Enfin, c'est vraiment des femmes très fortes. Moi, toutes les femmes que je rencontre en Iran, franchement, j'ai pas à les plaindre. C'est plutôt les hommes qu'il faut aller chercher et sauver. Donc moi, je voudrais que les hommes se lèvent et
fassent
du cinéma.
Allez-y, les hommes. Levez-vous, prenez une caméra.
Fais du cinéma. Fais du cinéma.
Fais du cinéma. Lève-toi, homme iranien. Très bien. Bien, écoutez, Sana Sazari, merci d'être venue pour nous présenter Icom Iran, qui sera diffusé ce soir, si je ne me trompe pas, 22h45.
Oui,
à l'aventure. Vous êtes dans la section, vous aussi, compétition belge.
Voilà, oui, parce que tout a été tourné en Belgique, en fait. Voilà.
Bien sûr. Produit en Belgique aussi.
Oui.
Eh bien, bonne chance.
Ça, c'est pour les hommes iraniens. Il y a des circuits de production en Belgique.
Et voilà, on vous attend. Merci beaucoup d'être venu. Bon festival.
Merci à vous.
Et à bientôt, j'espère. Au revoir.
Merci.
FATP.be.